Béatrice Soulet, bonjour.
Bonjour.
La maison Ousmane Sow qui va ouvrir au public à Dakar dans quelques jours s'appelle le Sphinx, qui n'est pas un nom anodin. Ousmane Sow, votre mari, l'avait construite lui-même de ses mains, c'est ça ?
Oui, alors elle s'appelle le Sphinx parce qu'à l'époque, il avait envie de faire une série sur les Égyptiens, dont il a fait une préfiguration, mais qu'il n'a pas continué. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais c'était pour lui une œuvre à part entière, qu'il avait entièrement recouvert de sa matière, et surtout dont il avait fait les carreaux, qui sont magnifiques, des grands carreaux de couleur, à même la matière de ses sculptures à pleine main, quoi.
Donc, sa maison était une sculpture.
Voilà, c'est une maison sculpture, en fait. D'ailleurs, il n'y avait pas d'architecte, il avait fait une maquette, et après, il avait un entrepreneur et deux maçons, et on montait un mur ici, un mur là, voilà.
Et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à l'intérieur de la maison Ousmane Sow qui va ouvrir au public, Béatrice Soulet?
Dans la maison, elles sont déjà installées. D'ailleurs, les œuvres, elles sont bâchées là pour le moment. Mais on va voir les séries africaines, enfin celles qui appartiennent encore à Ousmane, puisqu'elles sont pas toutes complètes. Hein. Ousmane travaillait par série. Il y a une série qui est complète. Heureusement, je me suis attachée à ce qu'on ne vende jamais les peules, de façon à ce que le groupe reste entier, parce qu'il travaillait par série quand même, Ousmane. Donc c'est important d'avoir ce témoignage. Donc il y aura les séries africaines dans les différentes salles, accompagné par des photos de l'ensemble de la série, pour qu'on se rende compte du travail global. Et les grands hommes, puisqu'il avait réalisé une série en hommage aux grands hommes qui l'ont aidé à pas désespérer du genre humain. Et il a malheureusement pas été au bout de cette série, mais il a réalisé Nelson Mandela, De Gaulle, Victor Hugo, son père... Et l'homme et l'enfant, qui est un juste, en fait, qu'il avait réalisé pour Besançon, mais qui a rejoint le groupe des grands hommes. Et il n'a pas terminé, malheureusement, Mohamed Ali, ce que je regrette beaucoup, parce qu'il avait une passion pour la boxe inouïe, et Martin Luther King.
Et quelle impression globale se dégage de ces œuvres? Est-ce que c'est la lutte pour la liberté des peuples d'Afrique, ou la liberté que les grands hommes comme Martin Luther King ou Nelson Mandela ont arrachée?
Oui, la liberté, ça, à coup sûr. La compassion, enfin bon, moi j'ai souvent tendance, je pense toujours, quand je pense aux œuvres d'Ousmane, à une phrase de Giono qui dit qu'on reconnaît les plus hautes œuvres d'art à ce qu'elles expriment en même temps l'étrange malheur de la condition humaine et les raisons de l'espérance. Et quand je vois les visages d'Ousmane, je pense toujours à ça, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement terrible dans ses visages, quoi. On sent une tristesse profonde et en même temps, il y a ces raisons de l'espérance. C'est-à-dire qu'Ousmane, son œuvre était très compassionnelle, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, dans Little Bighorn, vous n'avez pas un seul soldat ou indien blessé avec un visage, vous voyez, détruit, ou parce que il considérait qu'il avait autant de compassion pour les soldats que pour les indiens.
Il voulait que tous aient leur dignité.
Voilà. Il a dit qu'il aurait jamais pu faire un miséreux ou quelqu'un dans la souffrance. Ça, c'était, pour lui, c'était insupportable de voir un homme à terre.
L'atelier d'Ousmane Sow sera aussi visible dans la maison qui ouvre au public. Béatrice Soulet, qu'est-ce qu'on y voit dans cet atelier?
Alors, l'atelier, c'est plutôt celui dans lequel il travaillait vers la fin de sa vie. Parce qu'en fait, dans la grande cour où il a créé Little Bighorn, etc., il n'y avait pas grand-chose. Parce que, alors ça, c'était un peu son jardin secret. Ousmane était hanté par un projet dont je savais, moi, qu'il irait jamais au bout, parce que ça ne pouvait être qu'une utopie, étant donné le nombre d'années qui lui restaient, qui était de faire des sculptures animées, comme il en avait fait, d'ailleurs, il y a longtemps, puisqu'il avait filmé des sculptures animées dans son cabinet de kiné.
Un tout petit film, oui.
Un tout petit film, voilà, qui est dans le premier film. Le seul vestige qu'on ait de... enfin, le vestige. La seule chose dont on dispose de son passé. Mais il voulait absolument faire un film d'animation, mais il aurait voulu tout faire, écrire le scénario, faire les décors, faire bouger les œuvres, les filmer, etc. Et il travaillait comme un fou dans cet atelier à essayer de faire bouger ces petites sculptures animées qui étaient devenues des grandes sculptures animées. Et il poursuivait une tête d'un empereur fou. C'était un peu obsessionnel chez lui. C'était un peu toujours la même tête, voilà. Et c'est ça... C'est l'atelier dans l'état où il était quand il travaillait sur cette utopie qui restera visible.
Est-ce que vous ressentez une émotion particulière, Béatrice Soulet, à ouvrir ce lieu, la maison Ousmane Sow, où vous avez vécu avec lui, à l'ouvrir au public?
Ah, moi, je trouve ça formidable, parce que, je vais vous dire sincèrement, c'était pas une maison. Elle était conçue comme une œuvre et une sculpture. c'est une maison d'hommes, je veux dire, absolument pas logique comme maison, mais comme musée, elle va être absolument
pourquoi
merveilleuse.
Parce que les plans étaient un peu surréalistes.
Oui, c'était très compliqué, mais c'est comme un village, sa maison. C'est des pièces qui ouvrent toutes sur des vérandas avec des pièces séparées, etc. Mais on faisait des kilomètres dans la maison.
À part ses œuvres, Béatrice Soulet, il y a un combat qui continue après Ousmane Sow, c'est le combat pour le droit d'auteur des artistes et notamment pour le droit de suite. Alors c'est un petit peu technique, mais si on veut simplifier, on peut dire que c'est l'idée que à chaque fois qu'une œuvre est revendue par un collectionneur, l'artiste puisse toucher un pourcentage dessus. Et ça, c'est pas appliqué partout.
Et c'est très important parce que les gens ne se rendent pas compte qu'une œuvre, ça coûte de l'argent. Déjà, faut la stocker, faut l'entretenir, etc. Bon. Ousmane a accepté d'être vice-président de la CISAC, quand la CISAC lui a demandé.
Et il C'est la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs.
Voilà. Il a tout de suite accepté parce que ça lui paraissait très important de s'impliquer et de s'impliquer en tant qu'Africain aussi, où le droit d'auteur alors, est encore plus méconnu que chez nous, parce que pour faire respecter les artistes, quoi, en général. Il avait ce rôle très très à cœur, oui. C'était très important pour lui de défendre le droit de suite et le droit d'auteur en général.
Pour faire respecter les créateurs.
Pour faire respecter les créateurs. De toute façon, Ousmane ne faisait aucune concession d'aucune sorte à personne.
Merci Béatrice Soulet.
Merci.